Dites, t'as 3,5 kg de pommes de terre à planter aussi.
Ah ouais, il me reste 3,5 kg de patates. C'est de la Maven calibre 45-65.
C'est pour des frites ou de la purée? C'est,
ça peut faire de très bonnes frites.
D'accord, c'est bien.
Et très bonnes au four aussi.
Ça, c'est une annonce utile. Bah, ah,
c'est... Puis c'est du sérieux.
C'est du militantisme.
Appliqué, ça. Ah, la résilience, donc.
Circuit court.
Bon, on va remercier, on va remercier tout le monde. Bon, Eric et Mickaël d'avoir animé l'émission. Alex,
bah, ouais, bah,
Arnaud, écoute, commence par les hommes.
Merci à vous, Sam, merci de votre invitation, de votre écoute.
Et puis, merci.
Sam, qui, malgré son nom, est une femme.
Merci beaucoup.
Une jeune femme. Et puis, je ne la vois plus là-bas.
Tu l'as.
Voilà.
Salomé.
Comment je m'appelle
Salomé
déjà?
Bah, si, mais tout est noté. Bah, t'inquiète pas. Salomé.
Voilà. Salomé, ouais.
Merci à vous quatre d'être passés.
Avec plaisir.
Et puis, bah, si vous avez, au mois de septembre, octobre, si vous avez des nouvelles, des choses, si vous avez envie de repasser, il n'y a pas de problème.
Avec
vous me prévenir un petit peu à l'avance.
Quand on sera réintégré, on viendra.
Ah, oui. Oui,
quand on sera intégré et puis que l'employeur il aura pris acte de oui, ses erreurs, il pourra vous licencier sans faire les erreurs.
Oui, exactement, exactement.
Non, je ne le souhaite pas. Je souhaite que vous obteniez satisfaction. Donc, je vous remercie tous et toutes. Et puis, bah, je vais lancer le générique. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. Normalement, on va parler de la disparition du lycée autogéré de Paris. Donc voilà, avec un des profs. Et puis la répression qui s'est abattue sur eux, sur les profs, sur le... Voilà.
Répression partout, justice nulle part. Ouais.
Vous avez tous, à un moment donné ou à un autre de votre existence, ou même encore maintenant, flirté avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires.
D'abord, faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux
c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
S'amuse. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Bonsoir, nous reprenons ce soir le cycle des émissions consacrées au musée Carnavalet à Paris, c'est-à-dire le musée des collections historiques de la ville de Paris. Et nous étions au sous-sol, plus exactement, nous étions dans la salle S09. Si vous allez au bout de cette salle, vous trouvez des objets un peu étonnants, puisque ce sont des plaques de pierre, analogues à des pierres de taille, et sur lesquelles sont gravés des caractères en hébreu. Ça semble effectivement un peu inattendu pour un musée parisien. En fait, c'est tout à fait naturel, puisqu'il s'agit là des stèles d'un cimetière juif qui se trouvait au niveau de la rue Pierre-Sarrazin, dans le quartier Saint-Michel. Les Juifs de France pouvaient rester en France jusqu'en 1394. À cette époque-là, le roi de France décide de les expulser. On aura quand même des Juifs qui vont rester dans ce qui est maintenant la France, parce qu'à l'époque, ça n'était pas la France. En deux endroits principalement, l'Alsace, qui était alors terre d'empire et pas du tout française, et le comtat venaissin qui appartenait au pape, et les papes ont plus ou moins protégé les juifs, ou en tout cas, ils les ont nettement moins persécutés que d'autres lieux chrétiens, et par conséquent, tant à Rome que dans le comtat venaissin, les communautés juives ont pu perdurer. Mais en tout cas, jusqu'en 1394, il y a donc une communauté juive officielle dans Paris. Il faut bien que cette communauté enterre ses morts, et les stèles que vous voyez sont donc celles de ce cimetière. Vous tournez, vous faites demi-tour, vous ne reprenez pas le couloir que vous avez pris, mais vous prenez l'autre. Ça va vous faire passer devant, entre autres choses, une très jolie maquette d'une tourelle gothique flamboyante, puis un tout petit peu plus loin, il y aura un grand tableau qui va vous montrer la place de Grève. Dans l'émission précédente, j'avais mentionné justement un tableau où on voyait des bateaux lavoirs, des bateaux pour les lavandières, en réalité des pontons, sur justement des grèves, puisque les quais de Seine n'étaient pas encore aménagés comme ils le sont maintenant. C'était pour la plupart des plages, donc des grèves. Et c'est bien, on le sait, de là que vient le mot « faire grève », puisque les journaliers, les ouvriers à la journée, qui cherchaient du travail, dans Paris, ils se rassemblaient place de grève, c'est-à-dire à la place qui est maintenant la place de l'Hôtel de Ville, où il y avait une grande grève, une grande plage, mais comme justement il ne faisait rien, l'expression faire grève est née, puisque pendant la grève, on ne travaille pas. Vous remarquerez dans le même tableau la présence du pilori, donc de ce poteau auquel on attachait des gens que l'on punissait ainsi de divers crimes et délits. Victor Hugo a décrit ça qui arrive au pauvre Quasimodo dans Notre-Dame de Paris. Vous continuez dans la direction que vous aviez prise, ce qui va vous faire sortir du sous-sol, vous montez un escalier, vous revenez au rez-de-chaussée. Et là, pour le coup, vous allez prendre le très grand escalier, l'escalier magnifique avec au-dessus des fresques. C'est un escalier qui vient d'un hôtel particulier qui s'appelait l'hôtel de Luynes. Et comme l'escalier était très beau, on a donc conservé non seulement l'escalier, mais également les fresques magnifiques qui le décorent. Donc vous montez au premier étage, et là vous avez le choix entre plusieurs salles. Eh bien, vous prenez celle du milieu. Et pour être précis, c'est la salle 1.45, je répète, 1.45. C'est une salle dédiée à un architecte fort connu qui s'appelle Claude-Nicolas Ledoux. Claude-Nicolas Ledoux, vous en entendez généralement parler quand on parle d'architecte fou, d'architecte visionnaire, d'architecte utopiste. C'était un architecte qui n'avait pas du tout envie d'être utopiste, il avait très envie de construire, et il a d'ailleurs beaucoup construit. Seulement voilà, il n'a pas eu de chance, un très grand nombre des bâtiments qu'il a construits ont été détruits pour diverses raisons. En particulier, et on en voit deux maquettes dans cette salle 1.45, il a construit les pavillons d'octroi du Murmurant Paris, qui rend Paris murmurant. Pardon, je répète, le Murmurant Paris qui rend Paris murmurant, le Murmurant Paris qui rend Paris murmurant, vous avez reconnu le mur des fermiers généraux. Souvenons-nous, les fermiers généraux étaient ces gens qui payaient au roi les impôts pour le compte, on va dire, de la nation, plus exactement du tiers-état, et qui, en échange, avaient le droit et le devoir de collecter les impôts. Et bien entendu, la différence entre ce qu'ils payaient au roi et ce qu'ils extrayaient des poches de la nation était absolument considérable et a été l'une des causes les plus directes de la Révolution française. C'est dire qu'ils étaient extrêmement impopulaires, et c'est la raison pour laquelle Ledoux, qui a la chance de construire 50 pavillons d'octroi de ce murmurant Paris qui rend Paris murmurant, la quasi-totalité vont être détruits par les révolutionnaires furieux, on les comprend un peu, mais du point de vue esthétique, c'est extrêmement dommage. C'est d'autant plus dommage qu'il en reste quand même 5, on peut donc les voir et comprendre la perte que l'on a subie. Vous pouvez les voir au Parc Monceau, à la station de métro Stalingrad, à la place d'Enfer Rochereau et à la place de la Nation. La salle dans laquelle il y a ces maquettes est également décorée des boiseries du café militaire, un café qui était en fait le café Godot, mais qui voulait attirer la clientèle des officiers. Oui, le Ledoux, c'était un excellent architecte, mais il n'avait pas beaucoup de scrupules par rapport aux clients avec lesquels il souhaitait ou pour lesquels il souhaitait travailler. D'ailleurs, si vous pénétrez un petit peu plus avant dans la salle 1.44, vous avez là une salle avec des boiseries absolument magnifiques. Ce sont des boiseries qui étaient précisément dans un hôtel construit et aménagé par Ledoux, l'hôtel des Ducs d'Uzès. Et personnellement, en tant que guide conférencier, je m'en sers avec beaucoup de plaisir, et un plaisir narquois, quand j'ai des touristes américains. Pourquoi cela? Parce que si vous regardez attentivement les portes de ces boiseries, vous remarquerez qu'il y a les quatre continents. Les quatre, puisque à l'époque de Ledoux, on connaît quatre continents. L'Europe est représentée par une palette de peintres et une partition de musiciens, puisque c'est bien connu, seule l'Europe a des arts. Également, comme on est en France, eh bien, au sommet du trophée qui représente l'Europe, il y a le coq gaulois, puisque bien entendu, la France domine l'Europe. Nettement plus amusant encore, c'est la porte, et il faut se retourner, c'est la porte d'entrée par laquelle vous êtes passé, la porte qui représente l'Amérique. J'adore la montrer à des touristes américains, puisque l'Amérique, évidemment, aux yeux des contemporains de Ledoux, c'est-à-dire aux yeux des gens du XVIIIe siècle, l'Amérique est représentée par quoi ? Par un alligator et une couronne de plumes de chef indien. Vous continuez toujours dans le même axe. Vous allez franchir à nouveau un petit escalier, vous restez toujours sur le même étage, et vous entrerez dans une salle qui est la salle 1.01. Et là, il y a un tableau que vous avez certainement déjà vu, il est présent dans tous les manuels d'histoire. Il est particulièrement amusant puisque c'est une représentation d'une procession de la Ligue, donc la Ligue, c'est-à-dire l'organisation des catholiques pendant les guerres de religion, sur la place de Grève dont nous venons de parler il y a peu de temps. Ce tableau a à peu près certainement été peint par quelqu'un qui était hostile à la Ligue. En effet, il caricature les personnages et insiste fort lourdement sur le paradoxe et le péché aux yeux des catholiques de ces moines qui sont armés. En effet, selon les dogmes de l'Église catholique, le clergé ne saurait jamais verser le sang. Donc il était complètement obscène, du point de vue du dogme catholique, que des moines se servent d'arquebuses, ainsi qu'on le voit dans le tableau. En plus, on notera que les moines là dressent ou bien pointent leur arquebuse à un gamin qui visiblement a essayé de faucher à manger. Et d'ailleurs, on voit un peu plus loin également des mendiants qui se battent pour l'écuelle de soupe que une dame de charité vient de donner à l'un d'entre eux à peu près 1 ou 2 mètres plus loin. Vous remarquerez enfin qu'il y a même du linge qui sèche sur l'île. On est place de Grève, donc on peut voir les îles. Donc sur l'île qui est à gauche, c'est-à-dire l'une des deux îles dont la Réunion va créer un peu plus tard l'île Saint-Louis, et l'une des deux, je vous le rappelle, s'appelait l'île aux vaches. Est tiré de l'album Mélange violon populaire en Wallonie, un morceau intitulé Le Rossignol au bois. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître ni publicité. Ce sont toujours les Muses s'amusent. Nous sommes encore au musée Carnavalet à Paris, au premier étage, et nous étions dans la salle 1.01. Vous continuez toujours tout droit, vous passez plusieurs salles pleines de choses fort intéressantes, et puis vous allez buter sur un escalier qui descend. Vous prenez à gauche, vous ne descendez pas l'escalier, mais vous prenez à gauche, et vous allez arriver dans une salle consacrée à l'hôte la plus célèbre de ces lieux, la salle 1.13, qui est dédiée à Madame de Sévigné. Madame de Sévigné, qui était-ce ? C'était une femme fort noble, née pas loin du musée Carnavalet, puisqu'elle est née dans l'un des hôtels particuliers de la place des Vosges. Et puis Madame de Sévigné, elle a une fille, et elle adore sa fille. Quand cette fille devient adulte, la fille tombe amoureuse d'un monsieur fort bien, dont on a d'ailleurs le portrait dans cette salle dédiée à Madame de Sévigné. On a également le portrait de la demoiselle elle-même. Oui, mais le monsieur, le mari, monsieur de Grignan, il vit en Provence, très très loin de Paris. Et il emmène évidemment sa jeune femme en Provence. Ça brise le cœur de la pauvre Madame de Sévigné, qui ne supporte pas d'être séparée de sa fille, et qui va lui écrire jusqu'à 3 lettres par jour. Souvenons-nous qu'à l'époque, envoyer une lettre, ça coûtait non pas au destinataire, mais à l'envoyeur, mais au destinataire. Ça coûtait à peu près le salaire d'une journée d'ouvrier. Ces lettres sont tellement bien écrites, tellement amusantes, tellement vivantes, que Madame de Grignan, donc la fille de Madame de Sévigné, va prendre l'habitude de les lire à haute voix à ses copines, qui vont se récrier d'admiration, et petit à petit, eh bien, elles deviendront célèbres, et Madame de Sévigné deviendra le classique que l'on sait. Or, comme elle a, pendant une période de sa vie, résidé dans cet hôtel Carnavalet, il était logique qu'une salle lui rende hommage. On admirera un meuble que je ne connaissais pas, qui est visiblement qui est sorti des réserves, qui est absolument magnifique, qui est probablement une espèce de colonne pour tenir, j'imagine, un bougeoir ou un chandelier, dans le style boule. Boule, en fait, c'était les ébénistes Van der Beul. La plupart des grands ébénistes français sont pas du tout français d'origine, ce sont en général des Allemands ou des Hollandais naturalisés, et dont les noms sont francisés. Et le style boule se caractérise, on le reconnaît facilement, en général les cadres sont en ébène noire, puis il y a des panneaux dont le fond c'est de l'écaille de tortue rouge sombre avec un avant-plan en laiton ou en argent, ou bien inversement, le fond est en laiton et en argent, et on a un avant-plan qui est en écaille de tortue. C'est un style pas exactement léger, mais on est à l'époque de Louis XIV et il faut en mettre plein la vue. Puis, quand vous êtes devant le portrait de Madame de Sévigné, c'est le dernier portrait de ces salles, vous avez encore une petite salle devant vous, la salle 1.14, vous y entrez, et que voyez-vous ? Le célèbre portrait de Molière dans son rôle de César, quand il jouait dans la pièce de Corneille, La mort de Pompée. À ce moment-là, si vous vous retournez, et bien toujours dans cette salle, en face du portrait de Molière, vous avez à gauche le portrait de La Fontaine et à droite le portrait de Corneille. Et si vous allez juste derrière le portrait de Molière, bien derrière le portrait de Molière, hein, vous avez des mannequins et des tableaux amusants qui vous représentent les personnages de la Commedia dell'arte, donc évidemment ce qui a été jusqu'à un certain point l'origine du théâtre français. Et vous aurez en particulier le personnage comique, le grand vantard Pantalone, dont on remarque le pénis avantageux couvert par une protubérance non moins avantageuse, et Pantalone a donné, j'imagine à cause de ces protubérances, le nom français pantalon. À ce moment-là, vous revenez sur vos pas, vous allez donc longer l'escalier, vous ne descendez toujours pas, vous allez dans le sens inverse de l'escalier, vous allez jusqu'aux salles 1.04, puis 1.05, et là vous allez tomber sur un objet un petit peu étonnant, vous allez tomber sur une énorme main en bronze, et puis un énorme sabot en bronze, mais vraiment colossal. Ces objets en bronze sont des fragments de la première statue du Henri IV, qui fut érigée en 1614 sur le Pont Neuf. Aujourd'hui, à Paris, quand vous passez sur le Pont-Neuf, il y a bien une statue de Henri IV, mais ça n'est pas la statue originelle, qui fut détruite pendant la Révolution. Et c'est sous la Restauration que l'on a reconstruit cette statue de Henri IV. Donc les éléments que l'on voit dans le musée Carnavalet sont le peu qui a survécu de la statue originelle. Vous savez qu'il y a eu cette chose amusante que le fondeur, sous la restauration de la nouvelle statue d'Henri IV, n'aimait pas les rois de France. Il aimait Bonaparte. Et il a juré ses grands dieux, une fois que la statue était bien en place, qu'il n'était plus question d'aller le chercher dedans, il a juré ses grands dieux que dans le bras de la statue, il avait placé des pamphlets anti-restauration et pro-Bonaparte. Et il y a quelques années, on a été obligé de démonter la statue pour la restaurer. Donc on en a profité pour regarder ce qu'il y avait dedans. Alors on savait qu'il y avait également des monnaies, des papiers à la gloire d'Henri IV et de la monarchie. Et puis, on est tombé sur des papiers illisibles. Donc peut-être que le fondeur a dit vrai, et peut-être que donc ce qu'il avait placé est devenu illisible avec le temps, ou peut-être qu'il s'était simplement vanté, on ne saura jamais. Vous continuez toujours dans la même direction, et dans la salle 1.07, vous allez voir un grand tableau, ici il est sur la gauche, là, un grand tableau qui représente l'église Saint-Paul, le dôme des Invalides, hein, pas l'église Saint-Paul Saint-Louis, le dôme des Invalides. Et évidemment, ce tableau est extrêmement frappant puisque ce dôme des Invalides, il est tout seul. Il est en plein milieu d'un pré, et ce qui montre que à l'époque de Louis XIV, quand Louis XIV décide de construire ce qui est encore aujourd'hui la plus impressionnante et la plus belle maison de retraite du monde, puisque l'hôtel des Invalides au départ, c'est une maison de retraite pour les soldats de Louis XIV, Eh bien, cet hôtel est bâti, en gros, en pleine campagne. C'est là l'un des grands intérêts du musée. Il possède un grand nombre de vues de Paris dans le passé. Donc on peut voir comment était la ville avant les constructions modernes. Et par exemple, vous allez aussi avoir, toujours dans cette salle, un tout petit peu plus loin, une vue de Montmartre, sans l'abominable Sacré-Cœur. Regardez bien, vous remarquerez que Montmartre était plein de moulins à vent. Il reste encore aujourd'hui à Montmartre deux moulins à vent, le moulin de la Galette et le moulin Tolosay, mais avant la Révolution, on avait 21 moulins à vent sur Montmartre. Et encore un tableau un peu étonnant pour un œil moderne. Vous avez un tableau, toujours sur la gauche, qui vous représente l'observatoire. Et là, c'est pareil, il n'y a rien autour. Alors, à propos de l'observatoire, je vous rappelle que si Louis XIV a voulu qu'on construise un observatoire à Paris, ça n'était pas seulement pour aider l'astronomie, c'était également, comme d'habitude avec lui, par mégalomanie et volonté d'affirmer que la France était le centre du monde, puisqu'il a voulu que le centre de l'observatoire, la fenêtre centrale de l'observatoire, soit exactement traversée par un méridien nord-sud. Et il a décidé que ce méridien nord-sud, eh bien, ça serait le méridien zéro, le méridien origine. Bien entendu, nos amis et rivaux, les Anglais, n'ont pas du tout apprécié. Et ils ont décidé qu'ils allaient construire un observatoire qui serait l'observatoire de Greenwich. Alors on prononce Greenwich en anglais. Et cet observatoire de Greenwich, bien entendu, c'est lui qui a le méridien zéro. Et si on veut continuer un petit peu l'histoire, on sait que la France a perdu, comme si souvent, cette compétition avec l'Angleterre. Et il y a eu une conférence internationale, alors je ne sais plus si c'est en 1884 ou 1889, l'un des deux, et dans cette conférence internationale, la France dit, bon écoutez, d'accord, nous les Français, nous allons renoncer au méridien de Paris, nous allons accepter le méridien de Greenwich, mais à une condition, vous les Anglo-Saxons, donc vous les Britanniques et vous les Américains, vous allez adopter le système métrique. Les Britanniques et les Américains ont accepté. On sait que les Britanniques ont mis, juste un siècle, bon un peu moins quand même, à adopter le système métrique. En revanche, les Américains, comme on le sait, en sont toujours avec leur système aberrant et pas très pratique. Vous continuez toujours tout droit, et vous allez tomber, en fin de galerie, sur la salle 1.08, En regardant à droite, vous allez admirer les boiseries du cabinet de l'auteur Colbert de Vilsaire. Attention, c'est pas juste Colbert, c'est Colbert de Vilsaire. Et au milieu de ces boiseries, il y aura un portrait largement réaliste de Mazarin. Vous regardez tout ça, vous ressortez, et quand vous sortez, vous tournez à gauche. Et là, il va y avoir une longue série de pièces. En anglais, on appelle ça les period rooms, donc les pièces où on essaie de reconstituer une décoration d'une période bien, bien précise, bien particulière. Il y a beaucoup de choses magnifiques et nous n'allons pas parcourir tous les couloirs dans lesquels se trouvent ces period rooms, ça serait extrêmement long. Je mentionnerai quand même la salle 1.10 dans laquelle vous avez un plafond de Lebrun, oui, le Lebrun de Versailles, et ce plafond représente l'aube. Il est absolument magnifique. Vous continuez, et là, le décompte des salles est un peu bizarroïde, mais vous continuez toujours tout droit, et quand vous arriverez à la salle 1.38, je rappelle que c'est pas toujours facile de trouver les petits panonceaux où sont indiqués les numéros des salles, et bien dans cette salle, sur la gauche, au fond de la gauche, vous avez une maquette et un tableau de la Samaritaine. Pardon ? Oui, pas le grand magasin que l'on connaît, mais la Samaritaine originelle. Alors souvenons-nous que dans la Bible, Jésus, à un moment, rencontre une Samaritaine. Oui, mais les Samaritaines, c'est-à-dire une habitante de la Samarie, étaient les ennemis des Juifs. Mais malgré cela, Jésus est si divin, et si charmant, et si fascinant, la Samaritaine accepte de lui donner de l'eau. Donc on aimait bien appeler les fontaines des Samaritaines. Ce n'est pas exactement d'une fontaine dont il s'agit, mais d'un moulin à eau qui fut installé sur le Pont Neuf. Il n'en reste absolument rien, mais on peut regarder tant la maquette que le tableau, et on peut regretter qu'effectivement ce tableau, ce moulin à eau, ait disparu. Quand je parle d'un moulin à eau, je dis bien une espèce de grande roue à aube qui était sous le Pont Neuf, actionné par le flux de la Seine, qui élevait donc l'eau de la Seine, qui se déversait dans des, ce que nous appellerions maintenant des éviers, et cette eau était collectée par les revendeurs d'eau qui allaient la revendre dans tout Paris. Un autre tableau, un peu dans la même salle, est un tableau d'Hubert Robert, un grand tableau, et qui nous montre la démolition des maisons du pont Notre-Dame. Et là aussi, c'est fort intéressant à regarder, puisque, je l'ai dit dans l'émission précédente, sur les ponts de Paris, sauf le pont Neuf, il y avait toujours des maisons, puisque Paris était enserré, comme tant de villes européennes, par des murs d'enceinte, et donc pour gagner de l'espace, on construisait jusque sur les maisons. Mais après la construction, en 1607, du pont Neuf, un pont sans maison, on se dit que ça n'est pas la peine d'avoir ces maisons, d'autant que le mur d'enceinte là ne servait plus à rien à cette époque-là, et par conséquent, on va commencer à détruire les maisons sur les ponts. Encore un tableau dans cette salle 1.38 qui nous représente une joute de mariniers au niveau de la pompe du pont Notre-Dame. Alors, c'est intéressant parce que là, on voit quel était le bas de la Samaritaine, ça, les deux se ressemblaient beaucoup de ce point de vue-là, c'est la même idée, vous avez non pas tant une pompe que un moulin à eau actionné par le courant et qui élève l'eau jusqu'au niveau du pont où là, elle est collectée. Vous continuez, et quand vous arriverez à la salle 1.35, vous tomberez sur ce que je pourrais appeler la Montgolfiéromanie. En 1783, en septembre 1783, ça y est, Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande utilisent une montgolfière, donc un ballon à air chaud, pour s'élever de la Muette jusqu'à la Butte aux Cailles. Alors, incidemment, si vous allez porte de la Muette, il y a un petit monument, qui mériterait d'être plus grand, qui indique que le départ de ce premier vol humain de toute l'histoire de l'humanité, et quand on va à la Butte aux Cailles, c'est pareil, il y a un monument, également pas très grand, quasiment à côté du puits artésien, qui vous indique donc tout ce vol. Vous, tout autour des murs de cette salle, vous aurez des objets qui donc représentent les montgolfières qui, évidemment, ont frappé l'imagination. Alors il y a des assiettes, il y a des horloges, il y a tout un tas de choses tout à fait amusantes qui représentent la joie des gens. La joie et puis en même temps la curiosité, parfois la perplexité, voire l'incompréhension devant cette avancée technologique absolument stupéfiante pour l'époque. Un petit peu sur votre droite, vous allez trouver salle 1.34, un salon commandité par un graveur ami de François Boucher, et un salon, et ce sont donc des peintures sur bois, si je ne m'abuse, c'est extrêmement mignon, vous avez, c'est censé représenter une mare, un étang, il y a des canards, il y a des hérons, c'est tout à fait charmant. Ça vient des années 1770. Alors quand vous ressortez de ce salon, vous faites demi-tour sur votre gauche, vous continuez, et vous allez tomber, salle 1.31, sur un très joli boudoir. Alors évidemment, le mot boudoir est un mot qui maintenant pue un peu son patriarcat, puisque bien entendu, comme on considérait que les femmes étaient des grands enfants, et bien comme les enfants, elles boudaient, Donc on aménageait dans les hôtels particuliers, on aménageait des pièces réservées aux femmes, et par une moquerie d'un goût douteux, on les appelait des boudoirs. L'avantage en revanche, c'est que ces boudoirs sont en règle générale extrêmement, extrêmement jolis, et je rappelle qu'à Fontainebleau en particulier, après la chambre de l'impératrice, il y a un boudoir absolument sublime qui a été construit et décoré pour Marie-Antoinette. J'en recommande la visite. Vous continuez toujours tout droit et vous retomberez sur l'escalier de Luynes, donc celui que vous avez utilisé pour monter du rez-de-chaussée au premier étage. Vous n'allez donc pas dans la salle 1.45 dans laquelle vous êtes déjà allé. Non, vous continuez tout droit, vous tombez dans la salle 1.47 où vous aurez les bustes de Voltaire et de Rousseau, donc deux grands écrivains extrêmement célèbres et fort malheureusement peut-être. Rousseau, comme vous le savez, était complètement paranoïaque, il était bien barjot, le pauvre Rousseau, et Voltaire a passé toute sa vie à essayer de faire de Rousseau un ami sans le moindre succès. L'un des charmes amusants de cette pièce est qu'on y voit un fauteuil qu'utilisait Voltaire avec un écritoire particulièrement intelligent et pratique. Thank you. c'était le Penguin Café Orchestra. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Ce sont toujours les Muses s'amusent et nous continuons à explorer le musée Carnavalet où nous sommes à présent au premier étage. Et vous tomberez dans la salle 1.48 sur un portrait de Benjamin Franklin et également sur un assez joli biscuit. Qu'est-ce que c'est qu'un biscuit en termes d'histoire de l'art ? C'est de la porcelaine laissée blanche, de la porcelaine sur laquelle on ne peint pas, parce que déposer de la peinture, c'est en fait déposer de l'émail sur de la porcelaine, eh bien ça l'épaissit, et par conséquent, la porcelaine blanche a deux avantages. D'abord, elle fait penser au marbre, tout en étant nettement moins chère, et deuxièmement, elle permet à ce moment-là d'avoir quelques détails, souvent par exemple les chevelures ou des dentelles, beaucoup plus fin que ce qu'on pourrait obtenir si on recouvrait cette porcelaine d'émail. Donc on a un biscuit qui nous représente Louis XVI en armure. Pour autant que je m'en souvienne, Louis XVI n'est jamais allé sur un champ de bataille. Et devant lui, Benjamin Franklin. On remarque quelque chose immédiatement. Benjamin Franklin est en cheveux. Ce qui veut dire qu'il ne porte pas de perruque. Or, bien entendu, à la fin du XVIIIe siècle, tous les hommes qui peuvent se le permettre financièrement portent des perruques. C'était en réalité un choix politique, surtout un choix, on va dire, en termes anachroniques et modernes, un choix marketing de la part de Benjamin Franklin. En effet, la vision qu'avaient les Français à l'époque parmi les gens les plus civilisés ou les plus décadents ou les plus en progrès selon l'angle de vue que vous choisissez, le point de vue des Français sur les Américains, c'était que les Américains étaient des barbares. C'était des fanatiques religieux, des demi-fous qui étaient allés s'installer sinon dans la jungle, du moins dans des forêts pleines de sauvages. Et c'était des gens proches de la nature. Or, la nature, à la fin du XVIIIe siècle, en France, la nature revient à la mode. Alors, entendons-nous, la nature, une nature extrêmement artificialisée, il suffit d'aller au Petit Trianon en particulier, au hameau de Marie-Antoinette, pour se rendre compte de ce qu'était la conception française d'élite, française des classes dominantes de la nature, pour se rendre compte que c'était assez loin de ce qu'était, de ce qu'est vraiment la nature. Mais toujours est-il qu'en tout cas, la nature, quelle que soit la vue artificielle qu'on a dessus, bien la nature est à la mode. Et Benjamin Franklin s'en rend compte. Et il va donc jouer le personnage de Monsieur Nature. Et une partie de ce personnage consiste précisément à ne pas porter de perruque, ce qui est l'une des choses qui va le rendre non seulement célèbre, mais je dirais aussi notoire, avec ce petit côté négatif du mot notoire. Toujours, mais négatif peut-être, n'empêche que ça va marcher, et que les Parisiens, les Français, vont s'enticher de Benjamin Franklin. Souvenons-nous quand même que Louis XVI avait considérablement hésité à l'idée de soutenir les révolutionnaires américains, avec une parfaite logique. Il s'était dit qu'il n'était pas très bon pour les monarchies que l'une d'entre elles soutienne une révolution démocratique. Mais Beaumarchais, et ça n'est pas pour rien que dans la salle suivante, ou dans la salle d'après, je ne me souviens plus, vous aurez un buste de Beaumarchais sur la droite, eh bien, ça n'est pas pour rien qu'on met un buste de Beaumarchais, car Beaumarchais, non seulement est l'auteur de pièces de théâtre qui poussent l'idée de démocratie, discrètement, mais quand même très fermement, Beaumarchais était également le professeur de musique de Marie-Antoinette. Et Beaumarchais, qui était un homme très intelligent, voulait également faire fortune en étant le vendeur d'armes, ou au strict minimum, le convoyeur d'armes de la Révolution américaine. Par conséquent, il a poussé Marie-Antoinette à influencer Louis XVI avec un argument extrêmement simple, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et quiconque, évidemment, était contre les Anglais, eh bien, à l'époque, c'était fatalement quelque chose qui allait très bien pour les Français. Donc Louis XVI, finalement, a accepté de soutenir militairement et financièrement la Révolution américaine, non pas par sympathie pour la démocratie, mais simplement par haine et rivalité des Anglais. Ce soutien va avoir plusieurs conséquences. Tout d'abord, la Révolution américaine va réussir, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va apporter la preuve qu'on peut avoir un État démocratique fonctionnel. Alors bien entendu, nous sommes sur Radio Libertaire, et la conception d'abord d'un État démocratique, que c'est quasiment un oxymore. Et dans le cas des États-Unis, bien entendu, à l'époque où la Révolution américaine se déclenche, la quasi-totalité des révolutionnaires américains sont des esclavagistes. Donc évidemment, leur côté révolutionnaire est particulièrement discutable. Alors mentionnons quand même une exception, et il est dommage que le musée Carnavalet ne parle pas plus de lui, c'est Thomas Paine. Thomas Paine, qui va à la fois jouer un rôle relativement important dans la Révolution américaine, mais qui va en même temps en être un peu un marginal. Et puis il va venir en France, et bien entendu nous ne savons pas quels étaient les termes exacts des discussions entre les gens les plus avancés politiquement en France juste avant la Révolution et puis au début de la Révolution. Est-ce qu'il y avait déjà des gens qui disaient explicitement « il faut qu'on arrête d'avoir un roi, il faut qu'on installe une république complètement démocratique » On n'est pas très sûr qu'il y ait eu tant de Français que ça qui disaient ça. En revanche, il est à peu près certain que Thomas Paine, lui, encourageait les Français au strict minimum oralement à pousser aussi loin que possible leur révolution et par conséquent à créer un État démocratique. À nouveau, sur Radio Libertaire, on rappellera que État démocratique, c'est un oxymore. Toujours est-il que nous avons donc bien notre Benjamin Franklin, respectueusement baissant la tête devant Louis XVI en armure, ensuite revenant dans Paris, devenant la coqueluche de ces dames d'abord, mais également des messieurs. Souvenons-nous qu'il était vu, complètement à juste titre, comme un bienfaiteur de l'humanité, puisqu'il est l'inventeur du paratonnerre qui a permis de sauver des milliers de vies en évitant à la foudre de créer des incendies sur les bâtiments. Et avant de monter au deuxième étage vers les salles de la Révolution, il est important de rappeler que la Révolution américaine a eu une deuxième conséquence à la fois simple et extrêmement puissante. La Révolution américaine a coûté beaucoup d'argent à la monarchie française, elle a coûté beaucoup d'argent à Louis XVI. Oui, mais Louis XVI était déjà en plus fauché. Alors évidemment, la notion de fauché, quand on a une épouse, Marie-Antoinette, qui dépense des millions et des millions par an sur les robes, c'est évidemment très relatif. Mais il est important de constater que en 1789, eh bien Louis XVI est parfois incapable de payer les soldes de certains de ses soldats. Il y aura des troupes qui, en 1788 et en 1789, vont refuser d'obéir aux ordres de Louis XVI en disant qu'elles n'ont pas été payées depuis 4 ans. Et souvenons-nous que c'est, tout comme la Révolution américaine avait adopté comme motto, comme devise, et en même temps comme raison principale, pas de taxation sans représentation, donc en gros les Américains en avaient marre de payer des impôts aux Britanniques sans avoir de mot à dire sur non seulement la quotité de cette taxation, mais surtout sur son usage, eh bien, c'est la même chose qui se passe en France. Le roi a un système financier qui est tellement pourri, gangrené, corrompu et inefficace qu'il n'a plus assez d'argent, qu'il panique parce que quand on n'arrive plus à payer sa propre armée, ses propres gardes du corps, c'est tout à fait inquiétant du point de vue de la sécurité. Et c'est la raison pour laquelle Louis XVI va vouloir convoquer les États généraux. Il va espérer que les États généraux vont d'une manière magique lui trouver de l'argent, le cas échéant en inventant un nouvel impôt. Et ce qui va se passer, souvenez-vous, c'est que les représentants, en particulier les représentants du tiers-État, vont vouloir non pas accéder au désir de Louis XVI de trouver encore un nouvel impôt qui, encore une fois, ne tomberait que sur le tiers-État, c'est-à-dire 96% de la population, alors que le clergé, l'Église, possédait à peu près un tiers des terres françaises et ne payait d'impôts que si l'Église le voulait bien, et que les nobles ne payaient pas grand-chose non plus. Non, les représentants du tiers-État vont vouloir, en regardant l'exemple de la Révolution américaine, ils vont vouloir établir une constitution écrite. Bien entendu, une constitution écrite, ça allait par définition limiter les pouvoirs de Louis XVI et surtout, ça allait changer la base même du pouvoir royal français, puisque les rois de France affirmaient être rois de France par la grâce de Dieu, alors que ce que vont vouloir les premiers révolutionnaires, c'est affirmer au contraire que Louis XVI est le roi des Français et non pas le roi de la France. Et quant à la grâce de Dieu, ma foi, on va le voir dans l'émission suivante, on va faire mention de l'être suprême, mais l'être suprême ne va pas être une garantie, une justification de la présence de Louis XVI sur le trône. Et puis, bien entendu, si on écrit une constitution, on va faire entrer dans cette constitution tout un tas d'institutions qui n'existaient pas auparavant, et ça sera le rôle des États généraux qui vont se transformer en Assemblée nationale, en Assemblée constituante, en Assemblée législative et enfin en Convention, de créer ces institutions et d'essayer de les faire fonctionner. Donc il y a un lien absolument intime là entre la pensée philosophique et politique française qui a fortement influencé les fédéralistes américains, les révolutionnaires américains, lesquels révolutionnaires américains réussissent à créer une démocratie, donnant ainsi l'exemple aux Français d'une démocratie fonctionnelle, même si à nouveau extrêmement incomplète, tant du point de vue des femmes que du point de vue des esclaves noirs. Néanmoins, c'est là la contribution américaine à la Révolution française, et il est donc logique que ces salles du musée Carnavalet parlent de Benjamin Franklin, et hélas qu'elles ne parlent pas assez, en revanche, de Thomas Paine. Donc quand vous passerez dans cette salle où il y a le buste de Beaumarchais, vous tournez un tout petit peu à gauche, vous verrez une salle tout d'un coup d'aspect beaucoup plus moderne, et il y aura un escalier qui va monter au deuxième étage vers les salles de la Révolution. Et les salles de la Révolution, eh bien, nous en parlerons dans la prochaine émission des Muses s'amusent, toujours consacrée à ce musée carnavalet, ce musée des collections historiques de la ville de Paris. Et j'espère vous allécher un peu en vous rappelant que le musée carnavalet est de très loin le musée le plus riche au monde en œuvres et en objets directement liés à la Révolution française. Et je vous donne donc rendez-vous, comme d'habitude, au premier lundi de chaque mois. C'était le concerto pour cor numéro 1 de Mozart, que chez le 412, l'Allegro, le premier mouvement, le cor était joué par Alan Civil. C'était aussi l'Emu s'amuse, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. S'amuse. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Thank you. Alors qu'est-ce que ça fait de se dire enfin la vérité du passé? Ça va faire 336 mois que je me cherche et me recherche moi. Je n'ai trouvé que des mois et pas des mois. J'en ai passé des mois sans émoi, mais dans tous ces mois, je me préfère dans mon profond moi, le vrai, l'authentique, amoureux, un peu fou des femmes et fou de moi. Je n'ai trouvé que des mois et pas des mois. J'en ai passé des mois sans émoi, mais dans tous ces mois. Que dire sur ces périodes du jeune moi de ma vie? Oh là là, moi, ce moi, tu m'as moisi de ton, je m'en foutis de moi. Je n'ai trouvé que des mois et pas des mois. J'en ai passé des mois sans émoi, mais dans tous ces mois. Comme dirait le père, sacré-moi, je me vous vois, moi, jamais. Mais paraît-il, il ne faut jamais dire jamais, sauf si jamais je recroise ces anciens moi, que je n'appréciais guère. D'ailleurs, je vous ai fait la guerre deux fois. Il y a quelques fois la paix, moi, voulez-vous de quoi? Je n'ai trouvé que des mois, mais pas des mois. J'en ai passé des mois sans émoi, et dans tous ces mois, c'est pour ça que ces mois-ci, je vous aime vraiment bien quand même. Du moins j'essaye, j'essaye au moins, moi. Je n'ai trouvé que des mois et pas des mois. J'en ai passé des mois sans émoi, mais dans tous ces mois.
Pas l'horoscope, pas l'horoscope, pas l'horoscope. morceau à son orecto. Échafauder un programme strict, n'oubliez pas l'audace. La Vierge pense au taureau, la Vierge pense au taureau. Charmante énergie du modèle offert à nos manies. C'est pas dans l'horoscope, pas l'horoscope, dans l'horoscope, pas l'horoscope. J'aime dans les cerceaux pleurer sur les amours pipeaux, les enquêtes pratiques fiches tricots, l'extravagance de nos héros et les passants hétéroclites. Je demande instamment, c'est pas dans l'horoscope, pas l'horoscope, dans l'horoscope, pas l'horoscope. Nouveautés voyantes, mettez-moi vite dans la confidence. Vous pouvez compter sur mon silence.
Celui qui promit cette vie, moi, je n'ai pas choisi. Où est-il celui qui dit ça, c'est ta vie, toi, tu vas vivre ici. Aïe, c'est demain je suis prêt, j'affronte sa colère. Aïe, c'est mes mains qui ont fait ce bateau pour la mer. Si je laisse les miens, ce sont mes surfeurs, père et mère. Mes mains vers le ciel, mon destin artificiel. C'est demain essentiel, c'est mes mains, c'est mon ciel.
Radio Libertaire 89.4.
Quand je marche pas sur la plaque, les hauts talons bien à plat, quand je suis sur deux chaises qui craquent, la fourchette entre deux plats, quand je me perds dans qui perd gagne et que mon cœur valse à deux temps, quand mes dents creusent castagne du silence que j'entends. Cherche pas ce qui m'arrive, c'est que je navigue dans la dérive, dans la dérive, dérive, rive. Quand je voyage dans la baraque, ou que très loin je suis là, quand j'ai le tempo patraque dans ma tête en chocolat, quand l'hiver je rêve d'un pagne ou l'été d'un astrakhan, quand je compte tout ce que je gagne dans mon chômage à plein temps, faut que je dise ou que j'écrive qui me pousse loin de la rive. C'est ma dérive, dérive, rive. Quand mon amour me détraque et que je pleure en plein gala, quand souplement je me braque et me recolle en éclat, quand dans mon château d'Espagne je me confesse à Satan, quand j'aplatis des montagnes qui s'envolent au fond de l'étang. S'il faut qu'un jour on me prive, pourvu que ça soit pas de ma dérive, pas de ma dérive, dérive, rive. Quand je marche pas sur la plaque et que je pleure en plein gala, quand j'ai le tempo patraque, ma fourchette entre deux plats, quand l'hiver je rêve d'un pagne et que mon cœur valse à deux temps, quand je compte tout ce que je gagne qui s'envole au fond de l'étang. Chin, chin, tout foule quand j'arrive, fruit de passion, ta nana n'arrive. Vive ma dérive, dérive, rive.
La porte bleue de la boulangerie, et puis l'épicerie où un monsieur frileux comptait ses caramels. Ensuite la ruelle tournait en escalier. À défaut de cahier, on écrivait au mur chacun son aventure. J'aimais une mineure, j'avais 10 ans tassé, le cœur est effacé, mais la flèche demeure. Mon enfance était là, c'était une merveille, mais ce n'était déjà qu'un déjeuner de soleil. Il y avait certains principes, un vélo pour 3 types, mais jamais plus de 7 pour une cigarette. Quand le fils du bistrot apportait du vermouth, on était toujours trop. Moi j'étais bon au foot, Marc, on boxait pas mal, mais le roi du lance-pierre, c'était quand même Albert. Et puis quand il y avait bal à la salle des fêtes, il mettait sa casquette. Mon enfance était là, c'était une merveille, mais ce n'était déjà qu'un déjeuner de soleil.
Assis sur le trottoir, quand t'arrivais à l'heure. Tu pouvais voir le soir la marchande de couleurs. Quand elle enlevait ses bagues, elle laissait la lumière. Je raconte pas des blagues. Montée sur les épaules d'une espèce de grand drôle, j'ai même vu sa guêpière, ses jambes jusqu'aux chevilles. C'était un 23 juin. Ça m'a coûté 3 billes, mais je ne regrette rien. Il y avait la porte bleue de la boulangerie, et puis l'épicerie où un monsieur frileux comptait ses caramels. Ensuite la ruelle tournait en escalier. Marc est mort à la guerre, pas de nouvelles d'Albert. On amassait pas mousse, mais on vivait en douce. Les heures sont passées, le cœur est effacé, mais la flèche demeure. Mon enfance était là, déjeuner de soleil, mais c'était une merveille.
N'achète que des lilas. Quand je vais chez la fleuriste, je n'achète que des lilas. Si ma chanson chante triste, c'est que l'amour n'est plus là. comme j'étais en quelque sorte amoureux de ces fleurs-là, comme j'étais en quelque sorte amoureux de ces fleurs-là, je suis entré par la porte des lilas. Des lilas, il y en avait guère, des lilas, il y en avait pas, des lilas, il y en avait guère, des lilas, il y en avait pas, j'étais tous morts à la guerre, passé de vie à trépas. Je suis tombé sur une belle qui fleurissait un peu là. Je suis tombé sur une belle qui fleurissait un peu là. J'ai voulu greffer sur elle mon amour pour les lilas. J'ai marqué d'une croix blanche le jour où l'on s'envola. J'ai marqué d'une croix blanche le jour où l'on s'envola. Accrochés à une branche de lilas. Pauvre amour, tiens bon la barre, le temps va passer par là. Pauvre amour, tiens bon la barre, le temps va passer par là. Et le temps est un barbare dans le genre d'Attila. Au cœur où son cheval passe, l'amour ne repousse pas. Au cœur où son cheval passe, l'amour ne repousse pas. Aux quatre coins de l'espace, il fait le désert sous ses pas. Alors nos amours sont mortes, envolées dans l'au-delà. Alors nos amours sont mortes, envolées dans l'au-delà. Laissant la clé sous la porte des lilas. La fauvette des dimanches, celle qui me donnait le la. La fauvette des dimanches, celle qui me donnait le la. S'est perchée sur d'autres branches de lilas. Quand je vais chez la fleuriste, je n'achète que des lilas. Quand je vais chez la fleuriste, je n'achète que des lilas. Si ma chanson chante triste, c'est que l'amour n'est plus là.
Dis-moi ton cœur. Parfois s'envole-t-il, Agathe, loin du noir océan, de l'immonde cité, vers un autre océan où la splendeur éclate, bleu clair profond, ainsi que la virginité. Dis-moi ton cœur, parfois s'envole-t-il, Agathe, la mer. La vaste mer console nos labeurs. Quel démon a doté la mer, roque chanteuse? Qu'accompagne l'immense orgue des vents grondeurs de cette fonction sublime de berceuse? La mer, la vaste mer console nos labeurs. Emporte-moi wagon. Enlève-moi frégate, loin, loin, ici la boue est faite de nos pleurs. Est-il vrai que parfois le triste cœur d'Agathe dise, loin des remords, des crimes, des douleurs, emporte-moi wagon, enlève-moi frégate. Vous êtes loin, paradis parfumé, où sous un clair azur, tout n'est qu'amour et joie, où tout ce que l'on aime est digne d'être aimé, où dans la volupté pure, le cœur se noie. Comme vous êtes loin, paradis parfumé, mais le vert paradis des amours enfantines, les courses, les chansons, les baisers, les bouquets, les violons vibrants derrière les collines, avec des brocs de vin le soir dans les bosquets. Mais le vert paradis des amours enfantines, l'innocent paradis plein de plaisirs furtifs, est-il déjà plus loin que l'Inde et que la Chine? Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs et l'animer encore d'une voix argentine, l'innocent paradis plein de plaisirs furtifs? Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs, l'innocent paradis plein de plaisir furtif?
The remix.
Dans la nuit.
Dans la nuit.
Dans la nuit.
Dans la nuit. Dans la nuit. Nuit noire.
La nuit, c'est un sacré tapin qui marche sur la main. La nuit, ça cause avec le vent, ça chante doucement. Oh nuit,
notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit.
Oh nuit,
notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit.
Oh nuit,
notre vie est un voyage,
notre vie est un voyage,
notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit.
La nuit,
dans l'hiver et dans la nuit. Dans l'hiver et dans la nuit. Dans l'hiver, dans la nuit.
La nuit et l'hiver.
Dans la nuit.
Dans la nuit.
Dans la nuit.
Dans la nuit.
place pour s'aimer, puisqu'elle est condamnée, notre génération. Rien ne sert de rêver, mon amour, tu sais, on n'est plus des enfants. Puisqu'ici-bas nous tombe de ce ciel sans merci que des larmes de sang. Rien ne sert de courir, mon amour, tu sais, il ne comprendrait pas que nous avons trouvé à la force d'aimer dans nos cœurs un espoir. Rien ne sert de pleurer, tu sais bien, mon amour, que nos larmes sont vaines et que la seule chose qui fait battre leur cœur, c'est l'argent et la haine. Nowhere to run, nowhere to hide in this world. No dream.